tous et à tous, bienvenue dans Okapi Service, journée internationale de la Croix-Rouge. Oui, mais face aux urgences, sommes-nous suffisamment formés aux gestes qui sauvent? C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui en marge de cette commémoration avec Madame Gloria, non plutôt avec Monsieur Mathieu Moussepoulou, conseiller national en charge de développement des ressources à la Croix-Rouge de la RDC, et Monsieur Eugène Couilly, chef de centre national de formation à la Croix-Rouge RDC. Bonjour messieurs et bienvenue dans cette émission. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Et pour participer à cette émission, chers auditeurs, joignez-nous au 0825 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook au Okapi Service. Dieudonné Nyangassa met en onde cette émission. Esther Mambote assure le live sur nos plateformes digitales. Benjamin Mudumbi et Kaki Akewa réalisent cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matuaki. Je suis Jocelyne Moussaou. Bonne condition d'écoute.
Voilà Milambo. Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir du Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble des correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Un accident de circulation, un malaise soudain, un enfant qui s'étouffe. Dans ces situations d'urgence, les premières minutes sont souvent décisives pour sauver une vie. Pourtant, face à ces événements, beaucoup de personnes ne savent pas toujours quoi faire par manque de formation ou par peur de mal agir. Et pourtant, des gestes simples peuvent faire la différence avant l'arrivée des secours ou avant d'atteindre un centre médical. La Journée internationale de la Croix-Rouge est célébrée chaque 8 mai à travers le monde. Et en marge de cette commémoration, nous nous posons cette question. Face aux urgences, sommes-nous suffisamment formés aux gestes qui sauvent? Et comment développer cette culture du secourisme au sein de la population congolaise? Pour en parler, je l'ai annoncé, nous recevons M. Mathieu Moussepoulou et M. Eugène Nkouilly. Rebonjour messieurs, dites-nous hein, pourquoi dit-on que les premiers gestes peuvent sauver une vie?
Merci beaucoup pour la question. Je commence par saluer tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent à ce moment. Eh bien, le geste qui sauve sont d'une importance capitale. Parce que le geste que le secouriste va poser sur la victime va atténuer la souffrance de cette victime-là en attendant qu'on puisse l'évacuer dans un centre de santé le plus proche. Alors, nous sommes toujours prêts à intervenir à chaque accident de circulation, à chaque catastrophe naturelle et à tout autre événement qui appelle le rassemblement de beaucoup de personnes.
Voilà. Et quelles sont les situations d'urgence les plus fréquentes où ces gestes sont indispensables?
Oui, merci beaucoup. Merci, on salue les auditeurs qui nous suivent. Comme vient de le dire le conseiller, le premier secours est d'une importance capitale. D'une importance capitale parce que ce sont des premiers gestes que vous allez poser en face de votre victime. En attendant l'arrivée des secours, vous pouvez déjà poser les gestes, vous pouvez déjà sauver la vie. Et par après, quand les équipes de secours pouvaient arriver, vous avez déjà posé quelque chose qui pouvait sauver la vie en attendant que vous l'amenez au centre de santé le plus proche. Pourquoi nous disons ça? On peut supposer que vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, vous êtes sur la rue en train de marcher. Un collègue, subitement, il vient de tomber. Si vous connaissez les gestes de premier secours, vous pouvez déjà atténuer, poser les gestes, vous le mettez dans de bonnes conditions et en attendant l'ambulance et vous l'évacuez au centre de santé le plus proche. Voilà.
Et à Kinshasa ou en RDC, quels sont les cas qu'on rencontre les plus, hein, qui nécessitent justement ces gestes-là pour sauver des personnes qui sont en détresse?
Oui, il y a des cas de l'étouffement. Nous avons les cas plus de l'inconscience où subitement on parle de l'arrêt cardiaque. Il y a des choses que vous allez écouter. Quelqu'un qui est à la maison, il tombe, soit au bureau. Et si vous êtes là, vous êtes en face d'une victime qui est par exemple inconscient, qui respire, automatiquement vous devez placer la victime en position latérale de sécurité. Mais avant de le placer en position latérale de sécurité, ce que vous allez faire est d'abord d'évaluer la victime. Donc vous êtes en face de votre victime, évaluez la victime. Dès que vous évaluez la victime, dès que vous constatez que la victime est inconsciente, mais il respire, automatiquement, vous le placez en position latérale de sécurité. Parce que si vous la laissez comme ça, vous récupérez la victime, vous l'amenez à l'hôpital, l'laps de temps que vous allez prendre pour arriver à l'hôpital, souvent quand on arrive, on vous dit la victime n'est plus.
Mais il faut avoir certaines notions quand même pour évaluer la victime.
Oui.
Bien sûr, là, il faut une formation appropriée. Pour avoir ces notions-là des premiers gestes qui sauvent.
Mais est-ce qu'il faut nécessairement être secouriste ou c'est pratiquement tout le monde qui est concerné? Parce que l'accident, on ne l'attend pas à un point donné. Ça arrive n'importe comment, à n'importe quel moment.
C'est vrai, vous avez raison. Il ne faut pas seulement être secouriste, mais il y a une différence entre l'intervention d'un secouriste et l'intervention d'une personne qui n'a pas la formation en secourisme. Vous allez constater, par exemple, dans le transport de la victime, le secouriste sait comment transporter exactement une victime, par exemple, qui a une fracture de la colonne vertébrale, par rapport à une victime qui a une fracture quelque part. Alors, la personne qui n'a pas la formation va transformer vaille-vaille ou dans l'immobilisation de la partie fracturée. Le secouriste sait comment immobiliser avant de transporter. Mais une personne qui n'a pas de notion va transporter vaille-vaille et elle risque plutôt d'aggraver le cas qui était simple pour peut-être arriver à l'amputation du membre qui était fracturé.
Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser, former le plus de personnes pour sauver plus de vies?
Oui. Au fait, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a comme objectif un secouriste par famille. Un secouriste par famille. Et la sensibilisation s'est faite. Sauf que parfois, la population ne s'intéresse pas à cette sensibilisation de la Croix-Rouge. Parce qu'il n'y a rien, les gens qui viennent vous embêter comme ça, et qu'est-ce qu'ils font? Donc, les gens ne sont...
Quels sont les canaux que vous utilisez pour atteindre ces personnes?
Il y a la sensibilisation de porte à porte, parfois. Il y a la sensibilisation des masses. Nous passons dans les écoles, nous passons dans les universités, nous passons sur les marchés, nous passons aussi dans les médias, la radio, la télévision, pour sensibiliser la communauté congolaise.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces notions doivent être incluses aussi dans le système éducatif, carrément, dès le bas âge, à l'école, apprendre ce qu'il faut faire en cas de problème?
Oui, au niveau de certaines sections, comme la section sociale, je crois qu'ils ont le cours de secourisme au niveau secondaire. Il y a les sciences infirmières également, des ITEM, ils ont ce cours. Nous, au niveau de la Croix-Rouge, nous avons demandé l'autorisation au pouvoir public pour intégrer le cours de secourisme à notre Institut supérieur des sciences de santé. Et c'est ça, ça se fait comme ça. Les étudiants là-bas ont comme cours secourisme, ils ont les notions de secourisme.
Mais avec cette approche, vous pensez pouvoir atteindre un secouriste par ménage?
C'est difficile, oui, mais il faut oser. Il faut oser. C'est difficile, mais nous avons pris ce risque-là d'oser pour atteindre un grand nombre des personnes.
Mmh. Nous parlons de gestes qui sauvent. Je rappelle nos numéros de téléphone pour ceux qui veulent participer à cette émission, poser des questions ou intervenir tout simplement. C'est le 085 42 11 547, 085 42 11 547 ou le 0814 16 98 27 0 81 416 98 27 pour nous atteindre. Il y a également notre page Facebook où vous pouvez laisser votre commentaire que nous allons lire ici. Facebook Okapi Service. Nous avons un auditeur en ligne, Christian Kebana, nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Christian.
Bonjour madame.
Voilà, nous vous écoutons. Quelle est votre contribution à cette émission et des questions, hein, si vous en avez à nos invités, dites-nous d'abord, hein, est-ce que vous avez déjà été témoin d'une situation d'urgence et si oui, est-ce que vous avez su quoi faire en cette situation?
Merci beaucoup. Bon, moi-même, je suis aussi formateur des SST, bénis, formateurs, suppose, du travail, comme le monsieur qui avait intervenu de la Croix-Rouge. J'ai déjà pu aider quelqu'un lors de l'accident sur le boulevard Triomphant. Et j'ai pu réanimer la personne. J'ai fait ce qu'on appelle les RCP, réanimation cardio-pulmonaire, où j'étais obligé, la personne était inconsciente, ne respirait pas, et ne parlait pas, et directement, j'ai pu intervenir par rapport à ses gestes. Et Dieu merci que la personne revenait à la vie, et je l'avais amené à l'hôpital du centenaire, et je l'ai fait afin qu'on puisse prendre le sang de ce monsieur.
Et vous êtes...
Donc voilà, je vais tout simplement dire que c'est très important.
Oui,
c'est très important que les gens puissent apprendre les gestes qui sauvent et ça peut facilement sauver beaucoup de gens. Et je suis sûr et certain que beaucoup sont partis au-delà à cause de l'ignorance. Il n'y avait personne pour les aider. Donc voilà.
Et c'était, on va dire, peut-être une chance hein, que vous soyez là. Qu'est-ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas là? Est-ce que vous avez senti qu'autour de vous, il y avait d'autres personnes qui pouvaient aussi intervenir si jamais vous n'étiez pas là?
Oui, bon, comme je disais, c'est un accident. Et comme je suis aussi, secouriste, mais je suis aussi un agent de la prévention de la santé, sécurité du travail. Ce qu'on appelle le chèque, un chèque manager. Je puis sécuriser l'endroit, comme j'avais mes cornes dans ma voiture, et j'ai sécurisé l'endroit pour que moi-même je ne sois pas victime après, après aider quelqu'un. Et puis j'ai pu faire le geste et puis j'ai ramené la personne, j'ai pris la personne à la voiture et je l'ai ramené à l'hôpital de Saint-Pierre. Mais bon, arrivé sur place, on a commencé aussi à vouloir me compliquer. Je crois que c'est un grand sujet et aussi l'autorité doit vraiment, prendre des décisions qui s'avèrent importantes. J'ai amené la personne et on me demande de l'argent. J'étais obligé de me faire expliquer que non, j'ai aidé juste la personne parce qu'il y avait un accident. Et je l'ai amené et par obligation, l'hôpital devait d'abord prendre en charge de la personne et les restes devaient intervenir après. Donc voilà, madame.
Merci, monsieur Christian Kebana, pour votre intervention. On comprend que tout peut se jouer vite, hein, s'il n'y a pas de gestes, comme vous dites, s'il n'y a personne pour secourir des gens en cas d'urgence. Mais est-ce que vous pensez que la majorité des Congolais savent vraiment quoi faire en cas d'urgence comme ça?
Merci beaucoup, madame. Vraiment, je remercie notre auditeur. Ce qu'il a dit, c'est tout à fait réel. Et que si lui ne savait pas faire les gestes des premiers secours, peut-être que le monsieur ne devait pas vivre.
C'est ça.
Donc, le geste des premiers secours est très vital. Et nous allons conseiller plus la population de suivre la formation. Avec les cas qu'il vient de dire, si vous pratiquez mal la RCP, réanimation cardio-pulmonaire, vous tuez quelqu'un. C'est comme ça que ça demande une formation, que vous puissiez être outillé, et là, vous pouvez appliquer sans problème le geste qui sauve. Le cas comme ça, dès que la victime est inconsciente, il ne respire pas, ou il ne respire pas bien, automatiquement, on doit faire la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. On fait 30 compressions thoraciques et des insufflations. Mais pour le faire, il faut savoir comment le faire. Vous êtes vraiment à la hauteur. Si vous appliquez mal les endroits où vous devez appliquer, vous tuez quelqu'un. C'est comme ça la Croix-Rouge demande. S'il y a moyen, on peut former partout, mais que les gens sollicitent la formation et que tout le monde, chaque ménage d'ailleurs, comme le conseiller vient de le dire, chaque famille, mais nous allons ajouter même chaque ménage, dans chaque ménage qu'on puisse avoir un sauveteur. Parce que la nuit, à 2h du matin, ça vous arrive. La personne qui est inconsciente, qui ne respire pas, dès que vous récupérez la victime, vous l'amenez à l'hôpital,
directement
à l'hôpital, sans rien faire, automatiquement, ça va être un désastre. Mais si la victime est inconsciente, il ne respire pas, automatiquement, au bout de 4 minutes, si vous ne faites rien, il y a déjà des cellules qui touchent nos cerveaux qui commencent à mourir. Au bout de 10 minutes, c'est irréversible. C'est comme ça, vous êtes censé automatiquement d'appliquer la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, mais il faut savoir le faire.
Mais comment accéder justement à ces formations? Par où il faut commencer? Qui il faut contacter? Qui il faut voir? Est-ce que c'est de notre propre initiative ou la Croix-Rouge va aussi pousser la population à apprendre? Parce qu'il s'agit des vies, il ne s'agit pas de, d'être seulement secouriste, mais il s'agit de sauver des vies.
Oui, l'objectif n'est pas seulement d'être secouriste, mais comprendre, connaître le geste qui sauve.
Oui.
Dans chaque maison communale, je prends l'exemple de Kinshasa. Dans chaque maison communale, il y a la Croix-Rouge locale qui est là. Donc, dans chaque commune, vous allez voir le conteneur de la Croix-Rouge qui est là. On fait des exercices de simulation chaque mardi, jeudi et samedi. Si vous allez dans chaque, dans votre commune, vous allez vous inscrire. Mais si vous voulez contacter la Croix-Rouge, par exemple, de la province ou la Croix-Rouge nationale, il y a des canaux où vous pouvez contacter. D'ailleurs, pour le moment où nous sommes en train de passer l'émission, il y a l'équipe nationale qui est en atelier juste pour le geste de premier secours pour le moment où nous parlons. Et je pense qu'il y a déjà l'application qui est en cours. Je crois qu'on va revenir encore à la radio pour annoncer quelle voie ou bien les liens que quelqu'un pouvait contacter d'urgence la Croix-Rouge. Et par là, vous pouvez solliciter la formation plutôt. Vous pouvez solliciter la formation ou vous pouvez même poser la question si vous êtes en face de votre victime, qu'est-ce que je pouvais faire et on pouvait vous guider en attendant l'arrivée du secours.
Donc l'initiative doit venir des personnes qui veulent apprendre. S'ils ne montrent pas l'intérêt pour
en fait, l'initiative doit venir des deux côtés. Parce que le chef de division hygiène vous dit que il faut passer par la maison communale, c'est vrai. Mais moi, j'ajoute que même au niveau du quartier, nous avons ce que nous appelons les coordinations. Dans chaque quartier de la ville ou de la cité, il y a des coordinations. Vous pouvez passer par ces coordinations de la Croix-Rouge. Au niveau des universités, nous avons des brigades universitaires. Au niveau des entreprises, de certaines entreprises, nous avons des brigades des entreprises. Par exemple, à la Banque Centrale, Plastica, Marsavco, donc nous avons des brigades, on attrape tout ça. Vous pouvez passer par ces canaux-là, vous allez atteindre la Croix-Rouge. Mais le problème, nous, là, nous avons cette année, nous avons sollicité, non, depuis l'année passée, l'autorisation auprès du ministre du Transport pour que nous puissions former les chauffeurs et les motocyclistes. Parce que parfois, ils sont à base de beaucoup d'accidents. Et quand ils commettent un accident comme ça, immédiatement, s'il est formé, il doit intervenir pour sécuriser la victime. Et avec tous les risques que vous connaissez.
Oui.
Alors, à part les chauffeurs, nous avons sollicité auprès du ministre du Travail et Prévoyance Sociale aussi que nous puissions former les travailleurs dans leurs entreprises.
Oui.
Jusque-là, nous attendons la suite. Et nous avons été reçus par Madame la Première ministre. On lui a expliqué. En tout cas, elle était très contente parce qu'elle a dit « Je mets déjà mon accord pour la formation des agents de la primature. » Et moi-même en tête. Jusque-là, nous sommes en train de formaliser les choses. Donc, l'initiative peut venir, soit de la Croix-Rouge, soit des personnes intéressées.
Et, mais aujourd'hui, on constate hein, que beaucoup de gens n'ont pas, ne savent pas quoi faire face aux urgences ou ne s'intéressent pas à cette formation. Hein, qu'est-ce qui peut expliquer ce faible niveau d'intérêt ou de formation? Pourtant, il y a tous ces dispositifs dont vous parlez, dans les communes et tout ça. Et qu'est-ce qui justifie ce manque d'intérêt?
Moi, je pense que, comme le conseiller vient de le dire, l'initiative doit venir de partout. La Croix-Rouge, l'État congolais, la population aussi.
Oui.
Parce que ce que nous voyons à la cité, c'est quoi? Dès qu'il y a l'accident, les gens se contentent à filmer et de publier tout simplement. Moi, je comprends que c'est par manque de savoir, parce qu'ils ne connaissent pas quoi faire, c'est tout à fait normal. Mais si la population savent le geste de premier secours, ils devaient intervenir rapidement et ils pouvaient sauver la vie. Et si l'État exige que chaque peut-être entreprise, dans chaque ménage, qu'on puisse suivre la formation et la Croix-Rouge se mette, parce que la Croix-Rouge est disposée, il a des formateurs aguerris, il y a des formateurs qui sont là, comme le conseiller, le président national et son équipe, il y a vraiment des formateurs, nous sommes outillés à ça. Et le premier secours, c'est vraiment, je peux dire, le bâton de la Croix-Rouge. Où, si vous en avez besoin, il y a des gens qualifiés pour le premier secours. Donc, c'est question que la population et le gouvernement et la Croix-Rouge se mettent ensemble pour dire que c'est obligatoire que tout le monde, même quelqu'un qui pouvait conduire sur la voie publique, ne pouvait pas conduire sans pour autant savoir le geste de premier secours. Parce qu'il pouvait commettre l'accident et lui-même, avant que le secours arrive, il pouvait déjà intervenir. Mais comme il ne sait rien, il se contente soit à fuir, soit il prend le téléphone, commence à filmer, on le publie et la personne peut mourir comme ça parce qu'il y a l'hémorragie qui coule. On ne sait même pas comment arrêter l'hémorragie.
Voilà. Alors, madame, monsieur,
je voulais ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas engouement? C'est l'ignorance. Vous savez, le commun des mortels, c'est aujourd'hui que la Croix-Rouge enterre les cadavres. Et cet aspect-là, personne ne veut venir. Parce que moi, je ne peux pas aller enterrer des cadavres. Alors que...
Mais je peux sauver des gens autour de moi.
Voilà. Pour eux, la première conception-là, enterrer, même les cadavres des chiens, on vous appelle, « Ah, Croix-Rouge, et bimbemo kwezawa. » Donc, il y a un bois. Alors ça, les gens ont peur de venir. Vous savez... c'est maintenant là que même les enfants peuvent voir un cadavre. Nous, quand on grandissait, c'était difficile. On ne pouvait pas regarder un cadavre. Alors, cette conception-là est restée dans la tête des gens que la Croix-Rouge enterre les cadavres. Nous ne sommes pas des fossoyeurs. Si nous enterrons des cadavres, c'est pour éviter la propagation des maladies. Mais ce n'est pas notre mission. Voilà.
Je rappelle nos numéros de téléphone, 085 42 11 547 ou le 081 416 98 27, hein, pour ceux qui veulent intervenir dans cette émission. Il y a également notre page Facebook où vous pouvez nous laisser votre commentaire. Okapi, service, tout simplement, sur Facebook. Nous allons prendre le coup de fil de Joseph qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour madame, et je salue également tous les auditeurs qui nous suivent pour le moment.
Merci.
Merci beaucoup, je serai un peu bref.
Oui, allez-y.
Par rapport à ce que je vais vous dire, ce sont, je dirais autrement, que c'est du vécu.
Oui.
Ce n'est pas du tout de la théorie. Récemment, au festival Amani qui était organisé ici à Lubumbashi, j'ai vécu un événement. Il y avait une jeune dame qui était tombée, je ne sais pas si elle souffrait des palpitations. Et puis, au lieu que les gens la sauvent, ils se sont mis à la filmer. Alors, c'est quelque chose qui m'était intrigué dans la tête. Je me suis dit, ça, c'est manque de prise de conscience par rapport à notre génération actuelle, soit par rapport à l'environnement d'une manière générale. Et ce que je pourrais, moi, ce que je pourrais demander, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen?
Et vous n'avez pas pu faire quelque chose? Certainement, parce que vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire en ce moment-là.
Justement, permettez-moi, parce que c'est compte tenu des minutes, je ne veux pas être trop large pour permettre aussi aux autres d'intervenir.
Okay.
quand elle était tombée, voici le premier réflexe, c'était le filmer des gens, en fait, les gens qui se mettaient à filmer, en fait. Mon petit frère est parti directement, comme moi j'étais un peu à l'étage, il l'a ramassé, moi je l'ai joint par après. Donc, bravo. C'est quelque chose qui m'était dépassé. Donc, voilà, on l'a pris, mon petit frère l'a porté même sur le dos, il est parti avec elle jusqu'au niveau de l'équipe de secours, et puis elle a eu quand même un soin médical et tout. Mais c'est mais d'après moi aussi, mon réflexe, c'était pour venir que j'intervienne à la faveur de la personne qui était tombée.
Merci beaucoup.
Alors, moi je voulais proposer.
Oui.
Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que le gouvernement instaure quand même ces genres de formations dans chaque domaine? Parce que tous les domaines incarnent un risque. On ne peut pas dire qu'il y a aucun domaine qui n'a pas de risque, soit exclure tous les risques. Non. Tous les domaines, il y a les risques. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que le gouvernement, au-delà d'arriver à promouvoir cette formation du sécurisme, et aussi d'instaurer ces systèmes, qu'il y ait quand même ce genre de cours qui peut permettre aux gens de chaque domaine qu'il y ait quand même cette méthode ou soit ces cours du sécurisme pour permettre quand même à sauver des multiples de vies. C'est un peu ça mon idée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Joseph de nous avoir appelé depuis Lubumbashi. Monsieur Mathieu Moussepoulou, est-ce que l'éducation au sécurisme ne doit pas devenir carrément obligatoire?
C'est notre souhait. C'est notre souhait parce que, en fait, je vous ai dit tout à l'heure là que nous faisons les plaidoyers auprès des autorités pour qu'on puisse intégrer ce cours de sécurisme dans les écoles, en commençant par l'école primaire. Et ici, je passe par vous dire que nous avons des brigades même dans certaines écoles primaires. Donc, si ça doit être généralisé, je crois que ça sera une très bonne chose.
Peut-être parce que ça passe en brigade, hein, c'est très formel, que les gens s'en méfient, qui pensent qu'il faut forcément faire partie de la Croix-Rouge pour apprendre ça. Mais si vraiment on démocratise, si on se dit, bon, le fait de suivre la formation ne veut pas dire que vous intégrez automatiquement la Croix-Rouge. Peut-être que cela va susciter de l'intérêt au sein de la population.
Tout à fait. Vous avez raison, madame. Vous avez raison. C'est pourquoi nous faisons les plaidoyers auprès des autorités politiques. C'est à eux d'intégrer ce cours-là. Par exemple, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement supérieur et universitaire, peuvent autoriser l'intégration du cours de sécurisme à tous les niveaux. Et là, il y aura des gens qui vont apprendre les gestes qui sauvent, et à chaque instant, partout où vous serez, vous êtes obligé d'intervenir. Donc, ce n'est pas un problème pour nous, c'est l'autorité politico-administrative qui doit nous autoriser à entrer dans les écoles, parce que les écoles appartiennent à l'État, comme vous le savez.
Voilà, on va lire les commentaires de quelques internautes. John et Bingo nous écrit ceci, à mon humble avis, comme ce sont des gestes salvateurs, il est crucial de pouvoir former une bonne partie de la population, car la majorité n'en sait rien. Objectif, c'est faire revenir la vie à l'homme. Chrysostome Lébacois écrit, c'est une thématique très très importante, et personne parmi nous n'est immunisé contre ces événements malheureux. Tôt ou tard, ça peut arriver, alors c'est mieux de prendre des précautions dès maintenant. Héritier Charles Kissimba nous écrit que nous sommes souvent interpellés pour la non-assistance à la personne en danger, mais sans avoir eu aucune formation en amont pour y parvenir. Alors, dans ces cas, sous examen, je demande aux autorités judiciaires de mettre fin à ces arrestations arbitraires, et nous demandons si vite un renforcement psychologique afin de nous arrêter. Avec raison. Merci Charles Simba. Des commentaires par rapport à ce que vient de nous écrire nos internautes.
Ok, merci beaucoup madame. Je pense que, comme il a dit que ça épargne personne, ça peut arriver du matin, midi et le soir. Donc le geste de premier secours est tellement vital. Et si une bonne partie de la population, ou dans chaque ménage nous avons un sauveteur, c'est pas forcément on demande à la population d'être secouriste, mais d'être sauveteur. Vous connaissez les gestes de premier secours, vous pouvez sauver la vie dans la maison, ici au travail, à l'école, partout où vous passez, comme un auditeur l'a dit, partout, dans chaque coin, on ne peut pas passer sans pour autant. Il n'y a pas un domaine qu'on peut dire, il n'y a pas un cas quelconque. Il y en a toujours. Alors, si la population est formée pour ça, et je pense que nous allons vraiment épargner, soit nous n'allons pas assister à des décès à tout moment, parce que tout le monde ne peut pas mourir parce qu'il y avait un problème. Tout accident ne peut pas tuer. C'est peut-être la façon dont vous avez transporté. J'ai écouté un auditeur qui a dit, il a soulevé la victime, mais comment vous l'avez soulevé?
Il l'a mis au dos.
Comment vous l'avez soulevé? Et si la personne là était par exemple inconscient, par exemple, avec respiration, mais vous l'avez soulevé au dos.
C'est ça.
C'est-à-dire que la tête était inclinée et c'est un risque.
Ouais.
C'est un risque. Alors, ne sachant pas comment faire, et à la fin, c'est la mort.
C'est
donc,
ça.
C'est la formation qui est très importante, très capitale pour ça.
Monsieur Mathieu Moussepoulou.
Alors, j'appuie un peu, je commente un peu sur les arrestations. Et je vous apprends, madame, que même les secouristes sont arrêtés souvent pour avoir assister une personne qui est morte par la suite.
Oui.
Donc, il est interpellé, il est arrêté, il va en prison.
Il devient suspect numéro un.
Voilà. Il va jusqu'à la prison, tout ça. Et parfois, ça, quelles que soient les raisons que la personne avance, on ne croit pas. C'est lui qui est venu prendre notre frère, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Et là, ça démotive également les bonnes fois. Mais ce que je voulais dire... au fait, nous parlons des premiers gestes qui sauvent. Mais c'est lesquels, ces gestes-là?
Tout à fait. Quels sont les gestes de base que tout citoyen devrait connaître? Absolument, nous allons y répondre après cette intervention de Jason Munginda qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Merci de m'avoir rappelé. Je l'ai pris à court de diffusion. Je sais que c'est une émission qui est relative aux secouristes de la Croix-Rouge, si je ne me trompe pas.
Au geste des secours d'une manière générale. Hein. Est-ce que c'est venu de
d'accord.
la population? Est-ce que vous connaissez certains gestes? Est-ce que vous avez déjà assisté à un événement comme ça qui nécessite une intervention? Est-ce que vous avez été témoin d'une situation d'urgence? Est-ce que vous avez su quoi faire en ce moment-là?
Sincèrement, j'ai déjà assisté à des événements comme ça où j'ai vu quelqu'un s'effondrer, mais je n'ai pas vu les gens assister.
Et
les gens ne supportent pas ce genre de choses. Mais moi, je suis intéressé à suivre cette formation.
Oui.
Je crois que c'est très intéressant et très capital parce que on assiste assez régulièrement à ce genre de situation. Et comme j'avais dit tantôt lors de votre intervention, il y a des publics qui s'éplaient, n'est-ce pas, à faire de vidéos, alors qu'il faudrait intervenir. Alors la question que je vais me poser à l'invité, est-ce qu'ils ont un siège ici? Et comment faire pour suivre cette formation? Et quels sont les avantages qui sont rattachés à ces services? Voilà, merci.
Merci Jason Munginda de nous avoir appelé depuis Kinshasa. On va répondre à Jason.
Bon, je commencerai par lui dire que les endroits où il peut prendre contact avec la Croix-Rouge, vous avez dans votre commune, je ne sais pas vous habitez quelle commune, mais si vous allez à la maison communale de votre commune, à côté vous allez trouver un bureau de la Croix-Rouge. Et vous vous adressez à ce bureau-là, on va vous donner toutes... les données pour que vous puissiez suivre cette formation-là. Donc, ce n'est pas compliqué, vous serez bien reçu. Et même dans votre quartier, si vous vous demandez est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la Croix-Rouge ici, il va vous recevoir et il va vous donner toutes les coordonnées.
Une autre intervention, c'est celle de Maître Chrysostome Lebakwa qui nous appelle depuis Arou, en Ituri. Bonjour.
Bonjour, madame. Je salue aussi notre...
Bonjour. Merci, bonjour.
Oui, allez-y,
moi je voudrais plus interpeller les gens sur notre conscience. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ne s'intéressent presque pas face à ces cas. Vous voyez, certains sont en train de filmer, d'autres sont en train d'applaudir. Et pourtant, à droit d'abord, ça constitue ce qu'on appelle la non-assistance à une personne en danger. C'est prévu par les articles 66, 10, 4 du code pénal. Donc, le fait d'être là sans assister à une personne qui a danger, c'est déjà une infraction. On peut s'arrêter pour ça. Et j'ai suivi un de nos invités qui a dit qu'il arrive qu'on arrête même les secouristes. Mais oui, d'ailleurs, ça constitue une circonstance aggravante. Parce que vous êtes professionnel. Devant ces cas-là, vous ne pouvez pas vous aventurer de ne pas porter les secours. Si vous le faites, c'est une circonstance aggravante. Pourquoi vous arrêtez? On peut prendre aussi même des médecins, des infirmiers, s'ils se retrouvaient devant une femme à l'état d'accoucher et qui s'aventurait de ne pas porter ça. C'est une circonstance aggravante. Mais je n'aimerais pas qu'on s'inquiète plus sur les aspects juridiques. J'aimerais qu'on soit humanitaire, qu'on se comporte un peu comme Harry Dina, les créateurs du Croix Rouge de nos invités. Vous savez, à 1859, face à la bataille de Solferino, Harry Dina avait assisté au massacre, à la cruauté. Cela l'avait poussé à créer ce qu'aujourd'hui on appelle la Croix Rouge. Alors j'aimerais que nous ayons des choses et qu'on se prépare parce que ça peut nous arriver à nous tous. J'aimerais paraphraser Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, qui dit « Tant difficile est un événement imprévu de surprendre à tous. » Alors, dans ce cas-là, il faut déjà se préparer avant, pendant et après. Je commencerai par avant. Je vais me l'expliquer. Vous savez, j'aime un philosophe grec qu'on appelait Diogène le Cynique. Diogène le Cynique avait pris les précautions pour qu'il ne retourne jamais pas des situations catastrophiques. C'est-à-dire, lui n'avait pas de maison, il n'avait pas de matériel, parce qu'il ne voulait pas qu'il se retrouve dépouillé, ou, excusez-moi, je n'appelle pas aux gens de devenir des clochards. C'est juste qu'il faut prendre des précautions, il ne faut pas être trop matérialiste. Et il faut prévenir. Par exemple, si vous êtes dans une maison, il faut avoir des objets de première nécessité parce que ça peut être aussi une incendie. Je vous rappelle, hier à Bougna, il y a eu un incendie dont on a perdu 3 enfants. Ils ont été calcinés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'était juste appeler les secours parce que parfois, on n'est pas en train de chercher à transformer les secouristes au métier. Donc, on ne cherche pas à les substituer au métier. On cherche juste à leur donner des mécanismes et ce qu'ils peuvent faire. Pour ramener les gens de l'équipe vite chez ceux qui sont du domaine. Et pendant les catastrophes, il y a des choses qu'il faut faire. Parce que ça dépend. Parfois, les catastrophes peuvent être l'incendie, ça peut être les tremblements de terre, ça peut être l'inondation. Si je prenais un peu les cas d'inondation. Vous savez, dans les cas d'inondation, il faut que les gens mettent en esprit qu'il faut plus viser les hauteurs. S'il y a inondation, il faut mais ça se fait souvent à Kinshasa là-bas.
Il faut plus il faut savoir, dans le cas de notre sujet, savoir quel secours apporter à une personne qui est en train de se noyer. Et dans les cas d'incendie, comment sauver ceux qui sont en train d'étouffer. Ouais, allez-y, continuez, Maître Chrysostome.
Oui, dans les cas d'incendie souvent, il faut rester près du sol. Parce que la fumée aussi peut vous perturber la visibilité. Oui. Et ça cause plus de décès. Et il faut éviter de courir avec des objets. Parfois, la survie se joue à quelques secondes. Et il ne faut pas aussi oublier que vous pouvez aider les gens. Peut-être qu'il peut y avoir des handicapés, des personnes âgées. Donc, il ne faut pas les ignorer. Ne pensez pas seulement à vous. Et en cas d'inondation, je dirais, il faut plus chercher à monter plus haut et éviter de prendre comme qui. Vous savez, déjà, l'eau, à partir de 60 cm, ça peut faire couler une voiture. C'est pour cela que vous voyez les gens ne peuvent traverser les inondations avec une voiture. Ça, c'est une erreur catastrophique. Donc, il ne faut pas se comporter de ça. Et après cela, après les catastrophes, j'aimerais que les gens aient un matal d'endurance. C'est-à-dire qu'il faut accepter la réalité. Parfois, ça arrive. Parfois, ça arrive. Hein. Il faut vous contacter de votre survie. Et il ne faut pas trop compter sur les gouvernements, parce que le gouvernement viendra pour essayer de vous aider à survivre, pas pour vous aider à remplacer tout ce que vous avez perdu. Ça, c'est déjà faux. Parce que vous on voit les victimes en train de perdre. Bon, le gouvernement doit venir nous bâtir nos maisons. On a dit non, 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 non. Après des réalités, il faut s'assumer, il faut s'accepter. Je crois que je laisse la parole à d'autres intervenants pour nous inviter à réagir.
Merci beaucoup, Maître Chrysostome Lebakwa, pour votre appel depuis Arou, dans la province de l'Ituri. Nous prenons le coup de fil de Alex Mwanza, qui nous appelle depuis le Kasaï central. Bonjour. Alex Mwanza, veuillez activer votre micro, si vous ne l'avez pas encore fait, et éteindre votre poste récepteur, hein, s'il est allumé, nous suivre à partir de votre téléphone. Est-ce que vous êtes en ligne, Alex Mwanza? Alex n'est plus là. On va répondre à la préoccupation de Maître Chrysostome. Jason Munginda aussi, je pense. Ah, Maître Chrysostome. On donne la parole à Monsieur Eugène Nkui.
Ok. Merci beaucoup, madame. Ce qu'il vient de dire est capital. Si tout le monde savait le geste qui sauve, je ne pense pas qu'on va assister dans des filmages, on fait ceci, on fait cela. Comme nous sommes basés sur le geste de premier secours, le geste de premier secours est capital. Nous avons plusieurs gestes de secours.
Et quels sont les gestes, comme on le disait avant ces interventions, quels sont les gestes des bases que nous devons connaître? Il y en a beaucoup, hein, mais quels sont ce qu'il faut absolument connaître?
Oui, ce qu'il faut absolument connaître, c'est comme on peut commencer avec l'inconscience. Si vous êtes en face d'une victime qui est inconsciente, la démarche à faire et de lui solliciter avec des questions. Vous vous approchez de la victime, vous lui sollicitez à des questions.
Même si la personne ne parle pas.
Oui, vous allez constater. Vous devez commencer par là, solliciter à des questions. Si vous connaissez son nom, vous l'appelez à son nom. Si vous ne connaissez pas son nom, vous pouvez appeler monsieur, monsieur, madame, madame. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Ouvrez les yeux, serrez-moi la main, par exemple. Si la victime réagit, vous voyez qu'il réagit. Ok, c'est-à-dire il est conscient. La victime qui est conscient, c'est ok, vous pouvez discuter avec lui. Mais le vrai problème qui se pose, si vous sollicitez à des questions et que la victime ne réagit pas, automatiquement c'est à vous maintenant de chercher est-ce qu'il est en train de respirer, oui ou non. Vous allez faire seulement 10 secondes. On ne vous demande pas de prendre une minute, non. 10 secondes simplement, vous devez évaluer la victime pendant 10 secondes. Vous regardez s'il est en train de respirer ou non. S'il ne respire pas, vous comprenez qu'il est inconscient, il ne respire pas. Automatiquement, vous commencez la RCP, réanimation cardio-pulmonaire.
Est-ce qu'on sait le faire? Comment le faire?
Comment le faire? Ok, je pense qu'en passant, comment le faire, ça demande la formation. Parce que je suis en train de le dire, si quelqu'un peut essayer à la maison, c'est dangereux. Mais vous allez faire quoi? Dès que vous évaluez, l'évaluation vous dit que la victime est inconsciente, il ne respire pas ou il ne respire pas bien, automatiquement, vous faites 30 compressions thoraciques, vous faites entre au niveau de la poitrine, au milieu, vous faites 30 compressions thoraciques chez l'adulte.
Il y a un rythme à suivre.
Il y a un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Vous faites 30 compressions chez l'adulte parce qu'il y a trois étapes. Chez l'adulte, vous faites 30 compressions thoraciques et vous faites des insufflations de bouche à bouche. Là, vous allez bloquer les nez, vous insoufflez deux fois et vous revenez pour faire la compression. On vous demande de ne pas laisser jusqu'à l'arrivée des secours. Vous ne laissez pas. Si le secours n'est pas arrivé et que la victime n'a pas repris...
Mais ces secours-là doivent être joignables aussi. Est-ce qu'on a des numéros des secouristes? Est-ce que c'est connu de la population?
Oui, ça aussi, c'est un problème, comme je viens de dire.
Est-ce qu'il y a des numéros verts de la Croix-Rouge?
Oui, nous avons un numéro vert. Je crois que pour le moment, les numéros posent des problèmes, mais il y a un numéro pour l'ensemble du mouvement, c'est-à-dire le CICR, la Fédération et la Société Nationale. On va vous donner ça peut-être
parce
à la fin.
Parce qu'il y a des personnes qui meurent parce que, bon, on peut bien vouloir maintenir la victime en état de conscience, le temps de l'emmener à un centre de santé, mais il y a aussi ces problèmes d'embouteillage. Il y a des personnes qui décèdent en cours de route parce qu'on n'a pas pu atteindre un centre de santé et à cause des embouteillages. Comment maintenir la personne, même si on la maintient consciente, comment faire en sorte que, bon, malgré les embouteillages, on arrive à sauver cette personne jusqu'à une structure appropriée.
Oui, merci madame. Ce que j'étais en train de dire, quand vous êtes en train de faire le premier secours, par exemple, les cas de l'inconscience ou la RCP, je disais, on n'arrête pas. Si le secours n'est pas arrivé, on n'arrête pas. Si la victime n'a pas repris, c'est-à-dire vous devez continuer à donner le premier secours pour sauvegarder sa vie. C'est-à-dire, quel est l'exercice qui se passe là? Quand la victime est inconsciente, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas au niveau du cerveau. Dès que le sang n'arrive pas au niveau du cerveau, c'est dangereux. Alors, c'est l'exercice que vous êtes en train de faire, c'est de repousser le sang qui arrive au niveau du cerveau.
Continuer circulation.
Oui, et la victime doit toujours rester en vie, malgré qu'il n'a pas encore repris. Toi aussi, tu n'arrêtes pas. Même chemin faisant, quand vous amenez la victime à l'hôpital, il faut le faire. Il faut le faire. C'est très, très important. Alors, je disais ça, c'était un cas pour l'adulte. On le fait avec...
On va rappeler le numéro vert, c'est le 159, qui est opérationnel du lundi au vendredi.
Voilà. Donc, chez l'adulte, vous le faites 30 compressions avec deux mains. Chez l'enfant, si c'est votre enfant à la maison qui est inconscient, qui ne respire pas, rapidement, vous allez prendre... de 30 compressions, mais avant de commencer les 30 compressions, chez l'enfant, vous commencez 5 insufflations de sauvetage. On appelle ça 5 insufflations du lancement, parce que l'enfant est différent de l'adulte. Vous voyez, chez l'adulte, nous avons commencé avec les compressions, mais chez l'enfant, on commence avec 5 insufflations du lancement et on revient avec 30 compressions, cette fois-là avec une seule main. Vous ne pouvez pas faire deux mains chez l'enfant, sinon vous causez du tort. Vous faites une seule main et vous revenez 2 insufflations, 30 compressions jusqu'à l'arrivée du secours ou jusqu'à ce que la victime doit reprendre. Si c'était notre bébé ou nourrisson à la maison, cette fois-là, vous commencez aussi avec 5 insufflations du lancement. Vous faites 30 compressions. Cette fois-là, vous ne le faites pas avec une seule main, mais avec
Bouche à bouche.
Bouche à bouche.
À la bouche.
Pour le nourrisson ou bébé, vous faites 30 compressions avec deux doigts seulement. Deux doigts seulement. Il y avait une fois, je donnais la formation à un corps médical. Il me dit, à la fin de la formation, mais et c'est dangereux. J'avais réanimé l'enfant avec une main, le bébé, le nourrisson avec une main, et l'enfant était décédé. Juste après la formation, il m'a suivi, m'a dit, on n'avait pas ces notions actualisées. Donc, ce que nous en avons, c'est vraiment actualisé sur les standards internationaux. Et à l'enfant, le bébé, le nourrisson, on les réanime avec deux doigts seulement. Et les 5 insufflations du lancement doivent se faire avec beaucoup de précision et de principe. Donc c'est tellement différent, vous ne pouvez pas appliquer ce que vous allez appliquer à l'enfant chez l'adulte. C'est tellement dangereux.
On va peut-être parler d'autres gestes, mais le temps de prendre Serge Marie. Serge Marie Kabea qui nous appelle de Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour Kassia Kewa, bonjour.
Je suis Jocelyne Moussaou. On vous écoute, Serge-Marie Kabea. Quelle est votre intervention par rapport à notre sujet et des questions certainement à nos invités?
Oui, la question que j'ai par rapport à votre sujet est que dans les cas d'une blessure au cours d'une activité, alors je rappelle que je suis encadreur de quisite en arrêt ici au diocèse de Mbujimayi. Nous avons des activités que nous faisons avec les quisites en Ouarit, des processions, des marches, des visites dans d'autres paroisses où parfois nous sommes appelés à aller à pied. Mais en cas d'une blessure, au cas où nous n'avons pas de trousse de secours, est-il autorisé de traiter la plaie avec les fleurs, les herbes que nous avons qui nous entourent? Par exemple, les feuilles de patates. On peut écraser ça, mélanger avec du sel, mettre sur la plaie, penser. Est-ce que c'est autorisé?
Merci beaucoup.
Et j'ai aussi une demande par rapport à la formation actualisée. Comment faire pour que la Croix-Rouge puisse former ses nos membres sur cette formation actualisée sur les secours et premiers soins? Parce que ce sont les leçons que nous donnons aussi aux enfants et nous-mêmes pour protéger les enfants en cas d'activité.
Merci Serge Marie Kabea. Monsieur Mathieu, qu'est-ce que vous répondez à monsieur Serge? Est-ce qu'on peut utiliser les herbes si on n'a pas...
Ok, monsieur Jeanne va me compléter.
Oui.
Je crois que nous ne faisons pas le curatif. Nous faisons le préventif. on n'autorise jamais à un secouriste d'utiliser les herbes, non, non. Arrêtez l'hémorragie, conduisez l'enfant à l'hôpital, le plus proche. Donc, les herbes là-bas, c'est le médecin qui va déterminer quel est le traitement administré à pareil cas. Mais la Croix-Rouge n'autorise pas. Alors, pour revenir un peu sur comment appeler l'aide ou l'assistance ou le secours. Quand vous avez un cas, vous êtes seul secouriste. Vous devez travailler avec tous les curieux qui sont autour de vous. Vous pouvez envoyer un des curieux alerter la police.
Pendant que vous essayez.
Vous êtes
de...
en train de poser.
Mais il y a un auditeur qui demande en cas de crise de tension, ça arrive aussi très souvent, quand une personne est très en colère et qu'elle perd connaissance et qu'elle a subitement des dents serrées, comment on réagit? Parce que la colère, les embouteillages, la chaleur et tout, voilà, ça cause souvent des problèmes. Comment on réagit? On n'a qu'une minute avant de terminer l'émission. On donne la parole à monsieur Eugène, donc oui.
Merci beaucoup. D'abord, rapidement, en passant, je voulais expliquer à notre auditeur qui venait d'appeler, les gestes de premier secours n'est pas forcément que vous puissiez le faire avec le matériel moderne. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en face de votre victime. Vous pouvez utiliser les habits que tu as, les habits que la victime a, vous pouvez sauver, vous pouvez arrêter l'hémorragie avec tout ce qui vous entoure. Et c'est comme ça, pendant la formation, nous exigeons de ne pas circuler avec les trousses de secours, mais vous êtes en face de votre victime, vous pouvez tout utiliser, ce que vous en avez, c'est autorisé. C'est juste sauver la vie en attendant de l'amener à l'hôpital. Deuxième
question, quelqu'un qui est très énervé et qui perd connaissance, comment on réagit?
Oui, on réagit, vous devez l'évaluer. Tout ce que vous allez faire en premier secours, évaluez d'abord la victime. C'est l'évaluation qui te donnera la suite de ce que tu pouvais faire. Si tu n'as pas évalué la victime, tu ne pouvais rien faire. Parce que peut-être qu'il a un autre cas. Et j'ai écouté, il a dit le problème, peut-être qu'il a bloqué les dents, quelque chose. La Croix-Rouge, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il faut la formation, il faut mettre un stylo ou quoi, la Croix-Rouge n'autorise pas tout ça. Pendant la formation, on pouvait vous dire ce que vous allez faire. Donc, vous évaluez la victime et vous donnez les gestes de premier secours qu'on vous a appris. Et je pense que ça
ira. Beaucoup de questions. Donc, malheureusement, on n'a plus le temps. Comment on fait face à une crise d'épilepsie? On aura peut-être le temps d'en parler dans un autre numéro. Merci à Thomas Houguen qui nous écrit aussi depuis Kisangani. Merci à Augustin Dianda Kabangé, à Martial Lisséloge pour vos commentaires sur notre page Facebook. Monsieur Mathieu Moussepoulou et Monsieur Eugène Nkoui, merci d'être venu dans ces studios de Radio Capi pour cette émission Capi Service. On aura certainement l'occasion de multiplier les sujets. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été nombreux à intervenir dans cette émission et de l'avoir suivi.